Nous sommes Mélanie et Lola. On a envie d'apporter notre pierre à l'édifice avec cette émission qui n'a pas la prétention de changer la face du monde, mais elle a le mérite de nous et vous donner la parole.
Vous entendrez une fois par mois nos invités raconter leurs histoires de vie au travers de sujets de société, car on aime l'idée que tout mérite d'être raconté et entendu. Cette émission s'appelle
« Nos petits pas ».
En France, les hommes sont responsables de l'écrasante majorité des comportements asociaux. Ils représentent 84% des auteurs d'accidents de la route mortels, 92% des élèves sanctionnés pour des actes relevant d'atteinte aux biens et aux personnes au collège, 90% des personnes condamnées par la justice, 86% des mis en cause pour meurtre, 97% des auteurs de violences sexuelles.
La liste semble inépuisable, elle a surtout un coût direct pour l'État qui dépense chaque année des milliards d'euros en services de police, judiciaires, médicaux et éducatifs pour y faire face. Le coût a été estimé à 95 milliards d'euros. Et un coût indirect pour la société qui doit répondre aux souffrances physiques et psychologiques des victimes et subit des pertes de productivité et des destructions de biens. Pourtant, cette réalité est presque toujours passée sous silence.
Lucille Peytavin, historienne et membre du laboratoire de l'égalité, s'interroge sur les raisons de cette surreprésentation des hommes comme principaux auteurs des violences et des comportements à risque, et tente d'estimer le coût financier de l'ensemble de ces préjudices pour l'État, et donc pour chaque citoyen et citoyenne. Quel est le coût en France en 2020 des conséquences de la virilité érigée en idéologie culturelle dominante? L'autrice nous pose la question, n'aurions-nous pas tous intérêt à nous comporter, finalement, comme des femmes?
Nous sommes Mélanie et Lola, nous sommes deux femmes blanches, cisgenres, hétérosexuelles. Nous avons grandi entourées d'hommes, nos pères, nos frères, nos amis. Et aujourd'hui, on a eu envie de donner la parole à certains de ces hommes qui nous entourent pour parler de leur rapport à la masculinité et surtout à la leur de masculinité.
Tout à fait. Bienvenue les gars.
Eh ben, je peux me lancer. Donc Mathieu, 36 ans maintenant, un homme blanc. Voilà, cisgenre et hétéro. Donc je rentre dans tous ces chiffres-là, sauf que j'ai pas eu d'accident de voiture, je crois. Je n'ai pas volé d'affaires ou quoi que ce soit. Donc voilà, je me reconnais pas vraiment dans ces chiffres. Voilà.
C'est vrai que cette intro, elle peut être un peu costaud, pesante. Un peu pesante. Mais bon, on en parle après.
Moi, c'est Gabriel. Je suis aussi un homme blanc, cis, hétéro. Donc je rentre dans toutes ces cases aussi.
Moi, c'est Victor. Pareil, je suis un garçon. Je suis en couple avec une femme. Et je suis hétéro. Enfin, disons que...
Tu dis ce que tu veux.
Voilà, je réalise des documentaires. Et je fais beaucoup d'interventions auprès de jeunes. Donc, il y a eu beaucoup de moments, je dirais, dans mon métier où j'ai dû me poser cette question de mon rapport aux femmes. Et peut-être aussi à l'image que je voulais dégager en tant qu'homme. Parce que ça m'arrive souvent d'être en représentation dans le cadre de ces deux activités.
En gros, ce qu'explique Lucille Peytavin, c'est à quel point la virilité et la masculinité toxique coûtent de l'argent à l'État. Est-ce que vous, vous considérez que vous êtes viril?
C'est une bonne question. J'ai l'impression que oui, dans l'apparence, je pourrais me considérer comme ça. En tout cas, c'est les codes visuels que j'arbore, je crois, ouais.
Qu'est-ce que tu mets du coup dans l'apparence considérée comme virile?
J'ai de la barbe, j'ai des grosses chaussures en cuir, un gros blouson en cuir, de gros machins, comme ça. Même si je pense que je ne m'estime pas viril en tant que garçon.
Donc tu penses que c'est ce que tu peux renvoyer comme aux image, gens, ouais. Mais toi tu ne te considères pas comme étant viril?
Oui, c'est ça.
Moi sur la virilité, non, je me considère pas viril. Mais là, je pense que je te rejoins peut-être plus par rapport au physique, où du coup, pour le coup, ma petite taille ou ce genre de choses, je suis pas sur des choses imposantes. Donc du coup, de fait, je me considère pas, moi, sur cette notion de virilité, quoi. En fait, je suis moi, et voilà, viril ou pas, c'est pas bien grave, quoi. En tout cas, ce que je peux représenter, c'est pas en tout ça, en tout cas, ce que je recherche, de montrer que je suis viril ou que je suis pas viril. Voilà.
Moi, je dérape un peu, parfois. Moi, j'ai l'impression que j'essaye... j'ai l'impression que quand ça va pas, quand je me sens dans une situation quand je suis en difficulté, soit dans la rue parce qu'il y a un truc qui me convient pas, ou quand je me retrouve en danger, j'ai tendance à avoir une agressivité un peu virile. Comme si c'était un peu un bouclier, mais presque automatique, qui sortait. D'un seul coup, je prends des traits, une façon de parler un peu sèche. Je pense que la dernière altercation que j'ai eue dans la rue, je pense que si j'avais vu l'image, je me serais dit j'agis vraiment comme un gars, comme un militaire, quoi, un peu. Genre j'étais... Et après, par contre, du coup, ça a un effet, mais ça, c'est peut-être lié, mais du coup, quand je redeviens la personne que j'essaye d'être, qui est plus construite, le retour, il est d'autant plus violent. J'ai l'impression que, je sais pas, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'exprimait et qui faisait mal, et après, quand je redeviens normal, je suis un peu électrisé, j'ai l'impression que je sais plus faire, être viril tout le temps, ou jamais su faire, je sais pas. Mais ouais, j'ai un côté cassant, je pense, quand je suis en danger, que j'ai l'impression que je récupère de mon père, qui sait être cassant.
C'est l'image de la virilité, c'est quelque chose que vous avez pu observer justement dans les hommes de vos entourages quand vous étiez plus jeune. Tu parlais de ton père justement, c'est peut-être des choses qui ressortent dans ces moments-là.
Vas-y. Ouais,
moi, je crois que j'ai pas eu trop d'exemples de virilité. Mais effectivement, il y a ce côté, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais il y a ce côté un peu taiseux. Et, ça rejoint un petit peu ce que tu disais du sec et du cassant, des trucs qui coupent le dialogue, en tout cas qui ne donnent pas envie d'aller plus loin. Et c'est quelque chose que je retrouve chez mon papa, en tout cas. Ouais. Donc il a transmis un peu quelque part, quoi, forcément.
Pour le coup, moi, comme je suis issu d'une famille de parents séparés, et du coup très tôt, j'avais 9 ans ou 10 ans, j'ai un père quand même beaucoup absent, donc plutôt une éducation, c'est une éducation faite par ma mère, donc pas de modèle à la maison de père ou de virilité en tout cas. Après, mon grand-père avec qui j'ai pu passer pas mal de temps, finalement, était potentiellement taiseux, mais... J'ai jamais vu s'emporter ou quoi que ce soit, donc c'est pas non plus un modèle qui était proche de moi qui aurait pu m'amener ça, peut-être chez mes oncles plus, voilà, mais que je voyais pas très souvent, donc qu'on pas pu avoir un impact non plus là-dessus.
J'ai l'impression que c'est ce qu'on entend par virilisme, du coup, c'est, enfin, là, de ce dont on parle là, c'est que c'est quelque chose de virulent et de violent et de cassant, alors que peut-être pas forcément. Tu disais ton grand-père, il a pas spécialement du tout cette...
Non, je me souviens même pas de l'avoir vu s'énerver ou quoi que ce soit. Enfin, voilà. Après, pas d'émotion particulière dans, dans sa vie ou en démonstration. Mais après, ouais, quelqu'un qui garde, mais par contre qui a jamais eu un mot, en tout cas, plus haut que les autres, quoi. Enfin, en tout cas, j'ai pas de souvenir où je vois mon grand-père qui part en cacahuète, quoi.
Et tu considères ton grand-père comme quelqu'un de viril, malgré le fait qu'il ne soit pas trop emporté ou... Qu'est-ce qu'on met derrière la virilité, en fait? Qu'est-ce que vous mettez, vous? Qu'est-ce qu'on met, nous, derrière la virilité?
On a une définition, si vous voulez. Après, est-ce qu'on l'a dit maintenant et...
Ah, moi, j'ai juste le mot, en fait, confiance, j'ai l'impression. Enfin, il y a... Là, quand tu me posais la question sur mon grand-père, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui avait... prestance. Peut-être le mot aussi, okay. Quelqu'un qui est d'aplomb.
Quand tu dis confiance, c'est qu'il avait confiance en lui, quoi.
Potentiellement. Okay. Je n'ai jamais posé la question non plus, mais en tout cas, moi, c'est ce qui dégage
d'apparence.
Du coup, on revient à ce que tu disais, Gabi, sur l'apparence, ou en fait, quelqu'un qui est, qui est droit, qui est... Je ne sais pas si...
La sensation que j'ai, elle continue ton idée, mais je dirais confiance en toutes circonstances. Même quand on sent qu'on dit de la merde... Cette capacité à rester droit et à se fermer à la limite, comme tu dis, et à avoir beaucoup de mal à admettre qu'on s'est trompé, qu'on est parti dans une mauvaise direction, et aussi à être capable de prendre beaucoup de distance, en tout cas au moment du conflit, comme si ça ne nous touchait pas, comme si on s'en foutait, qu'on était au-dessus de ça, et comme si on était un peu au-dessus du monde, quoi, et que si les choses elles arrivent et que tu t'emportes, là tu n'es plus dans la virilité. Ou alors il faut que tu t'emportes avec le corps, ou je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression qu'il y a une distance avec les choses, quoi. dire si je suis viril, c'est que je suis capable de pas m'emporter. Ou alors, mais en même temps, c'est pas cohérent parce que j'ai aussi l'image de la personne qui a envie de se battre. Donc, je sais pas bien.
Oui, puis finalement, je pense que ce comportement, enfin, ce que tu décris, c'est, je trouve ça assez fort et j'ai l'impression que c'est assez juste, ce truc de peu importe si j'ai tort ou raison, de toute façon, je vais rester en appui, enfin, sur mes positions, quoi, je bougerai pas. On peut se dire que, en fait, finalement, ça peut aussi faire partie de certaines personnalités. Il y a aussi des femmes, des personnes qui se considèrent comme femmes qui peuvent avoir ce trait-là. Mais effectivement, il y a un truc, peut-être, où ce trait de caractère-là, il a peut-être sans doute été plus cultivé chez les garçons, étant enfant. En tout cas, c'est quelque chose que la société a cultivé, j'imagine, en tout cas attribué aux garçons et aux hommes, quoi, plus facilement.
En tout cas, c'est admis
oui, que
c'est comme ça. Je remarque que c'est du coup c'est un langage belliqueux, tenir sa position, tu vois, être crédible en toute situation. C'est peut-être plus proche de la guerre que forcément de quelque chose de masculin. Parce que, effectivement, tu le dis, il y a aussi. Enfin, c'est des personnes, quoi. C'est aussi peut-être des caractères. C'est peut-être des femmes aussi qui.
Potentiellement majoritairement plus les garçons, mais en tout cas, il y en a aussi chez certaines femmes, quoi.
La majorité, ouais.
Mais du coup, ça me fait penser que je suis peut-être viril alors, parce que je peux être un vrai con, quand même, sur des positions. Donc, voilà.
Viril égale con, on a déjà.
On commence à définir bon. Plus.
Mais ouais.
Mais est-ce que c'est quand c'est un sujet qui te tient à cœur et que tu veux pas lâcher et qui t'a pas du tout écouté l'argumentaire de l'autre?
Ouais, c'est un peu ça. Voilà. Je travaille là-dessus, mais c'est long. Mais ouais, il y a. Après, ça dépend aussi des gens, des relations que j'ai avec les personnes. Mais si, en tout cas, des amis proches, des fois, je peux être vraiment con et puis derrière, on va en rediscuter. Des personnes un peu plus éloignées, je peux juste être con et potentiellement pas avoir envie derrière de revenir discuter pour voilà, c'est que ça m'intéressait pas plus ou voilà, c'était juste mais oui, je pense que Lola peut en témoigner d'ailleurs.
non, j'ai pas d'exemple, promis Mathieu, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête.
Moi aussi quand même, l'autre jour tu m'as dit c'est quand même un gros con. Tu verras, bon.
J'ai pas dit ça, Mathieu. Jamais. Non, mais tu dis que tu y travailles. Est-ce que concrètement, tu mets des choses en place pour y travailler? Comment tu fais pour travailler ça, justement?
Non, il y a des moments où je m'en aperçois, en fait. Enfin, il y a des moments où dans l'échange, je me rends compte que là, je suis en train de virer sur la position con, alors qu'en fait, l'échange est là et qu'il n'y a pas besoin d'appuyer sur ce bouton-là, en fait.
Et avant, tu t'en rendais pas compte?
Pas
là,
du
maintenant,
tout.
Tu commences à t'en rendre compte sur l'instant.
Ouais.
Ok. Et donc, tu essayes de le changer? Tu essayes d'agir tout de suite? Ou tu te dis, la prochaine fois, j'agirai autrement?
Alors, quand ça m'arrive sur le moment, alors du coup, soit je fais le frein, je m'arrête là. Et si en me remémorant l'échange, je me dis, j'ai été con sur ce temps-là, là, je suis sur une phase plutôt d'aller m'excuser vers les gens et de leur dire, bon, bah là, j'ai merdé, j'ai pas lâché le morceau, alors qu'en fait, il n'y avait pas de morceau. Il y avait juste, je suis parti dans un truc et je le fais. Là, je commence à le faire avec pas mal de gens. À qui j'ai pu avoir des discussions, en tout cas où clairement je n'y avait pas lieu d'être, pas pourquoi je suis parti là-dessus. Et ouais, du coup, je prends le temps d'aller reposer le truc en me disant sur cet échange-là, on oublie parce que j'ai. Voilà, il n'y avait pas besoin que je parte là-dedans. Quoi.
Ça t'est arrivé de switcher, d'arriver à un moment où tu t'en rends compte et où tu arrives sur le moment à dire ok, attends, excuse-moi, je descends de mes grands chevaux et...
Je ne suis pas encore sur cette phase-là. Ouais.
J'imagine que c'est costaud, ça. L'étape d'après, peut-être, je sais pas.
Ouais, je me dis que c'est ça.
Ouais, ça rejoint ce que tu disais, Victor, de tenir sa position et de toute façon ne pas la lâcher, etc. Et donc, en fait, réussir à identifier les moments où on se rend compte que, ah, attends, là, je suis peut-être en train de dire de la merde, peut-être je le réparerai après, ou sur l'instant, c'est un exercice, quoi, s'exercer à dire, attends, là, je suis en train de dire de la merde ou je suis en train de ressentir un truc qui n'est pas en adéquation. Bon, peu importe. Il y a une forme de reconnaissance, en fait. Reconnaître que là, ma position, elle n'est pas hyper juste et ma position, elle n'est pas hyper OK pour toi, etc. Et cette reconnaissance-là, elle est primordiale, je trouve, pour pouvoir avancer dans les relations de manière générale, dans une communication plus saine. Mais cette étape-là de reconnaître, elle n'est pas simple. Et surtout, on parle de masculinité un peu toxique, notamment, ça a été l'objet de toute notre intro. Il n'y en a pas beaucoup qui reconnaissent leur part de responsabilité ou qu'ils ont pu dire de la merde. Il y en a qui ne voient même pas quand ils disent de la merde, si c'est de la merde. Enfin, c'est très compliqué à identifier ça.
C'est réussir à se remettre en question aussi. C'est vrai
bah, dans
c'est...
une société qui en plus dit que c'est ok d'être comme ça, d'être aussi toxique. Donc c'est compliqué de pouvoir se remettre en question là-dessus.
Et qu'est-ce que ça dit en même temps que moi aussi je me reconnais là-dedans, hein. Ça m'arrive. Qu'est-ce que ça dit quand on n'arrive pas à se remettre en question et qu'on tient notre barque et qu'on ne veut rien lâcher et que c'est dur? Moi j'ai l'impression que ce que ça dit de moi, c'est que je ne suis plus un enfant. J'ai un avis. J'ai vraiment l'impression que ça défend ma maturité. Et peut-être que c'est associé chez moi, masculinité et maturité, peut-être.
C'est intéressant, t'as associé masculinité et maturité. Tu t'es senti plus mature en te sentant plus homme ?
Ben, en tout cas, c'est arrivé à des moments où je devais défendre mon bout de gras, me dire là, j'ai besoin de m'affirmer parce que j'ai besoin de dire qui je suis, de défendre ce dont j'ai besoin. Et ça s'est traduit comme ça, en voulant ne pas lâcher mon bout de gras, quitte à ce que ce soit absurde et à ce que ça m'arrive encore, hein. J'arrive à switcher de temps en temps, vraiment à me dire oh, ouais, ok, excuse-moi, je change de mode et j'enlève mon doigt du bouton. mais j'ai l'impression que c'est ça que ça dit. Je veux affirmer qui je suis en tant qu'adulte, en tant que quelqu'un qui a un avis, en fait, en tant que quelqu'un qui a une position, en fait.
Et à la fois, vas-y.
J'adorerais l'idée de ne pas en avoir jamais, en fait. Mais sur le coup, bah, ça sort naturellement.
Et à la fois, c'est important, je pense, de se distinguer et d'avoir un avis et de pouvoir l'exprimer. Après, peut-être que... Voilà, c'est aussi écouter les avis des autres, mais en même temps, toujours se ranger et pas s'affirmer, c'est un peu triste aussi.
En tout cas, c'est une posture de donner, c'est pas une posture d'écoute. Et du coup, on peut plus écouter quand on tient notre bout de gras comme ça. Ça coupe.
Puis j'ai l'impression que c'est pas qu'une question du contenu de ce qu'on veut dire, que de la façon dont on l'a dit ou l'agressivité qu'on a pu avoir au moment de l'exprimer. Parfois, tout ce qu'on pensait, on aurait pu le dire autrement, on aurait pu utiliser d'autres façons et ce serait passé beaucoup mieux. Mais d'un seul coup, peut-être parce que moi j'ai l'impression que... Donc, ce dont je parle, moi, c'est quasiment exclusivement dans le cadre du couple, parce que je vis avec une femme depuis 8 ans à peu près. Et c'est là que j'ai découvert qu'il fallait que ça allait pas marcher, ma stratégie de communication. Et après, il y avait aussi des problèmes au niveau avec le rapport avec le parent. Mais ça, je m'en suis rendu compte un peu plus tard. Et c'était un autre travail. Mais quasiment à chaque fois, les personnes que je blessais à travers mes mots et mes façons de faire, c'était pas à cause de mes idées ou de ce que je défendais. C'était parce que d'un seul coup... j'arrivais à être cassant pour faire comme si ce que je défendais c'était le seul point de vue existant, quoi. Et peut-être que là en plus c'était, et je pense que je peux parler encore au présent, ça m'arrive encore plus dur de le remettre en question, parce que autant parce que ça devient super personnel. On se dit je sais pas, la façon intuitive que j'ai eu d'exprimer quelque chose, elle était pas bonne. Donc c'est moi qui n'étais pas bon parce que je ne suis pas capable de communiquer, ou parce que j'ai quelque chose de violent en moi qui vient de sortir et j'en ai honte. Et c'est hyper paradoxal, je trouve. Parfois tu sens quelque chose de violent en toi, ça te dégoûte, et pourtant automatiquement tu grimpes dans l'échelle de cette violence là avec des mots. Moi j'ai jamais tapé sur quiconque, par contre avec des mots j'ai réussi à faire déjà très mal. Et après, c'est une sorte de lien entre le dégoût et ce que tu es capable de dire. Et plus tu tombes bas, plus tu dis des choses dégueulasses, jusqu'à ce que tu switches, comme tu dis. Et en l'occurrence, j'avais pas le choix. Avec les parents, non, parce que souvent ça se fait à distance, ou quand ça se fait, tu peux toujours te barrer. Comme je vis avec ma compagne depuis tout ce temps-là, c'était inimaginable. Il y a une nuit où on s'est couché engueulé sans se... pardonner l'un et l'autre, et c'était au tout début, c'était il y a 7 ans et demi, et depuis on l'a plus jamais fait parce que ça nous paraît inconcevable de nous séparer alors qu'on n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente. Et du coup, ben, le temps de switch, ben, il est archi long, parfois ça peut prendre 2 heures, mais il doit arriver, alors qu'avant que je la rencontre il n'avait pas besoin d'arriver. Je pouvais casser tout autour de moi, à table au self à la cantine, à table avec chez mes parents, et me casser et avoir le cœur hyper libre, parce que j'avais sauvé ma fierté, mes idées, et j'avais cassé tout le monde autour de moi avec plaisir, quoi. Et j'ai appris que c'était plus possible quand je me suis mis en couple, finalement. En tout cas, c'est elle qui m'a dit que c'était plus possible. Et du coup, je me suis dit, bah, si je veux que ça continue, c'était vraiment... Il n'y avait pas trop d'autres alternatives, quoi. Genre, il n'y a pas de mérite dans le sens où ça ne pouvait pas se passer autrement.
Oui, ça t'a paru sensé. Ça t'a pas paru, genre, je vais le faire pour lui faire plaisir ou je vais le faire pour...
Ah non, je l'ai fait parce que je l'aimais et que... Ouais. Et que évidemment que ça ne pouvait pas se passer autrement. Mmh. C'est aussi elle, du fait de son engagement féministe, du fait de l'analyse qu'elle a portée sur les comportements, qui m'a mis ça devant le nez et qui m'a fait comprendre que tout ce que je prenais comme acquis, ce qui me paraissait évident qu'on faisait quand on discutait, quand on débattait, ça ne l'était pas. Et que je pouvais changer quelque chose en moi. Cette transformation, elle ne s'est pas faite parce que j'ai décidé de la faire, elle s'est faite parce qu'elle a décidé de disséquer mes façons de faire pour que je les vois et que je les identifie. Mais c'est son travail à elle, c'est pas mon travail à moi. Moi, après, peut-être la seule chose que j'ai fait, c'est que j'étais disponible à ça, parce qu'en amont, j'ai une mère qui avait des convictions et qui a des convictions féministes, et du coup qui m'a laissé entendre que c'était une bonne voie à suivre, sans que je comprenne pourquoi c'était une voie intéressante. Mais si Cécile n'avait pas fait ce travail-là, je pense que je serais toujours le même con. Hein. Clairement, je pense. Puisque je vois que ça ressort encore parfois, cette agressivité-là. Okay.
Pour le coup, ça fait écho aussi chez moi. Là. je suis en relation depuis un an et demi maintenant. Et avec une femme féministe aussi, qui porte ses combats, en tout cas... bien comme il faut, et du coup les échanges qu'on peut avoir me nourrissent, en tout cas, et c'est quelque chose que, pour le coup, dans une relation, j'avais jamais encore vécu, et qui est vraiment, en fait, qui par le fait qu'elle se questionne, du coup on se questionne, du coup je me questionne, et on fait des allers-retours et sur en fait, voilà, quand elle repère des choses chez moi, elle me dit, bah là, en fait, j'ai pas compris pourquoi, et du coup je dis, bah attends, j'ai pas capté non plus, donc voilà, je prends un peu de temps et je reviens, et en fait on fait des allers-retours comme ça sur et moi c'est un travail depuis un an et demi qui, voilà, qui foisonne en tout cas dans tous les sens, qui m'emmène dans, voilà, dans des endroits de moi aussi que je n'étais pas forcément prêt à aller ou en tout cas décidé à aller. Et c'est vrai que là, en tout cas, je mixe aussi avec une... Je suis en thérapie peut-être depuis... ça fait un an et demi aussi.
Ça fait à peu près le même temps.
Ouais, c'est ça. Mais c'est pas ma thérapeute, pour le coup.
Ne pas confondre.
Non, voilà. C'est... et c'est vrai que ce travail-là, ça me faisait écho quand tu disais les sursauts d'agacement. Et c'est vrai que, en fait, quand je suis avec elle, il y a cet apaisement, en fait, qui fait qu'on échange et que je peux entendre les choses. Et du coup... rester sur une zone à peu près, en tout cas d'échange, de communication, qui me fait avancer. Puis bizarrement, ouais, quand je ressors dans la rue et qu'on me double à vélo un peu trop près, et là, et c'est là où du coup la psy m'explique, bah ouais, mais qu'est-ce qui se joue à ce moment-là, pourquoi en fait t'es descendu de ton vélo, t'as insulté un mec, bah, qu'est-ce qui s'est joué chez toi, quoi. Et il y a la notion de peur qui vient, et qu'est-ce qui a fait peur, pourquoi ça arrive là. Et c'est vrai que du coup, mixer en tout cas les questionnements que ma thérapeute et la personne avec qui je suis en relation m'apportent, en fait, ça me nourrit et ça me donne envie de continuer à chercher, en fait, comment je peux être apaisé dans mes échanges, dans mes discussions, comment switcher plus vite et pas rester con. Enfin voilà, donc ça, mais ça chemine. Je trouve que c'est, pour le coup, des fois, je me dis, c'est un peu tard. À 36 ans, et puis après je me dis, bah, c'est déjà pas mal de commencer. Donc, ouais.
C'est un cocktail qui marche bien, je le conseille aussi, pour l'avoir testé. Ouais. Psy et relations de front, ça marche très très bien. Pour la déconstruction, on le redit aussi, hein, mais je pense que ça a un lien avec l'adage qui dit que derrière chaque homme, un tantinet déconstruit, il y a un certain nombre de femmes qui ont bossé pour nous.
Ouais, je trouve ça... trop beau de vous entendre dire ça, et à la fois, je crois que, si je suis très honnête, il y a quand même une petite partie de moi qui n'est pas confortable avec le fait de ressentir ça, mais c'est comme ça. Pourtant, j'ai beaucoup d'amour pour vous, c'est pas la question. Mais de quand même, quoi. Enfin, c'est aussi des meufs qui font le taf aussi, qui ont la patience et qui ont assez d'amour pour, en tout cas, avoir envie de vous aider à déconstruire des choses. Et bon, après, c'est évidemment, j'imagine, donnant-donnant dans une relation, évidemment, et que vous devez apprendre aussi pas mal de choses aux autres. Mais ouais, je sais pas, il y a un petit truc qui me touche, en tout cas, à cet endroit-là. De...
Une petite dose de charge encore ou...
Je sais pas, il y a un truc de... Elles vous aiment, quoi. Les filles qui vous entourent et les femmes qui vous entourent pour avoir la patience de ça. Et c'est chouette.
Je pense que c'est l'amour, ouais, qui donne ce ressort-là, l'élan de ça. Et du coup, j'en profite pour dire un grand, grand merci parce que Lola, c'est aussi ma petite sœur.
Je disais pas ça pour ça.
Tu as beaucoup, beaucoup participé à ce que je trouve une place comme ça. À choisir la place, en tout cas.
Mais c'est parce qu'on a eu la chance aussi de grandir dans une famille qui nous a permis d'avoir des outils de communication. Et ça, pour le coup, on peut parler de masculinité ou de féminité, mais on a grandi dans un contexte où je crois, évidemment, je pense que on peut avoir des éducations genrées sur des petits détails, par le conditionnement de la société, etc. Mais je pense pas que toi et moi, Gabi, on ait une éducation vraiment genrée. Mais ça se remarque, en fait, si on parle de clichés de masculinité ou clichés de féminité. Finalement, moi, je me souviens, on avait des conversations avec papa et maman quand on était un peu plus jeunes, où finalement, ils étaient plus flippés que toi, tu te balades dans la rue le soir, que moi, tu vois, enfin, même en termes de caractère, et qu'il y avait une espèce de switch de... Enfin, d'inverse, de finalement, ils sont moins flippés pour moi, potentiellement, avec ma grande gueule, pardon pour ça, que je me balade dans la rue que toi, tu vois, où malheureusement, ça t'est arrivé plusieurs fois de te faire casser la gueule dans la rue, quoi, tu vois. Et pour le coup, on a peut-être aussi un peu des pans de personnalité qui sont un peu inversés par rapport aux clichés, aux stéréotypes genrés, en tout cas.
C'est vrai. Je ne m'étais pas jamais aperçu de ça, vraiment. Mais oui, c'est vrai, ouais.
Bon, on n'est pas là pour faire une thérapie familiale. Ah, ne vous inquiétez pas, on s'arrête là.
Coucou papa et maman de Lola et Gabi qui écoutaient, c'est sûr.
Ah oui, oui, c'est les premiers fans. Hein.
Et peut-être, Lola, qu'il y a ce malaise, je pense, que tu décris. Moi, je l'ai pas mal ressenti aussi, de se dire, est-ce que je fais reposer tout ce qui ne va pas chez moi sur le dos de ma compagne? Ou est-ce que, évidemment, c'est une fausse question, ou est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire à côté de cette relation-là, avec toutes les autres relations que j'ai avec les autres femmes, mais aussi de documentation qui se fait personnellement, pour pas qu'en fait, ce soit à travers elle qui lit, qui se documente, que j'apprenne tout, mais qu'elle fasse son travail dans son chemin parce qu'elle a envie de le faire pour elle, ce travail de féministe, mais que moi aussi je le fasse parce qu'il me concerne autant qu'elle et que j'ai des choses à apprendre... pas via elle, mais via d'autres sources, que ce soit d'autres femmes qui font des podcasts ou qui écrivent des livres et tout ça. Et je me dis que c'est une responsabilité pour pas aussi avoir cette sensation qu'en fait, c'est une charge en plus qu'elle a à avoir de s'occuper de transformer les autres alors qu'elle s'occupe déjà de se transformer elle-même, quoi. Et peut-être qu'il y a des couples, effectivement, où on se dit, bon, bah, elle va me changer et basta. Et il y en a peut-être où... Et qui sont peut-être plus rares, au fond, où chaque personne du couple se sent personnellement concernée. Pas juste pour son couple, pas juste pour que ça fonctionne, mais parce qu'il y a quelque chose de plus grand dans ce combat que juste la sérénité dans un couple, quoi.
C'est un appel à se bouger le cul soi-même.
Bah après, là-dedans, il y a le soi-même. Et en fait, les espaces d'échange entre hommes... Moi, j'en ai pas connu, en fait, clairement. Enfin, je pense que, pour revenir sur la notion de charge, pourquoi on se repose encore sur un petit mouvement, une petite poussette, allez, vas-y, débrouille-toi. C'est parce qu'en fait, moi, clairement, j'ai jamais été dans un espace entre hommes où on pouvait parler d'être un homme. C'est quoi être un homme, justement? C'est quoi être viril? C'est quoi... J'ai pas côtoyé de cadre, en tout cas, où il y avait cette possibilité de se questionner sur qui on est en tant qu'homme pour voir qu'on était peut-être différent, qu'on se posait des questions et que peut-être d'autres avaient des réponses. Et moi, c'est quelque chose là qui me questionne actuellement. J'en ai discuté avec un ami là, où, où on imaginait peut-être la possibilité de se créer un cercle d'hommes, en fait. Et lui, il me disait, ouais, bah, en fait, on en a... Il avait déjà eu presque la possibilité d'en créer un, puis il a déménagé. Et puis là, moi, quand il m'a parlé de ça, je dis, bah, en fait, ça m'apparaît plutôt pertinent. Et du coup, pour justement enlever de cette charge, bah, là, on ne serait pas seul, justement. Et ça serait une notion de... Voilà, on se pose, on se questionne. Et puis, donc voilà. Donc là, moi, c'est un truc qui chemine... tranquillement, mais je pense que déjà, moi, d'être là aujourd'hui, c'est aussi un cheminement, donc ça participe de ça. Je vois que ça se passe bien pour le moment, donc je me dis, bah, sans les micros et entouré de personnes que je connais ou pas, en tout cas, mais on, voilà, continuer de travailler cette réflexion que des hommes peuvent avoir, en fait, pour justement se dire, bah tiens, première question, comment on fait pour décharger les femmes de la charge qu'on leur porte, quoi, ou qu'on leur met sur le dos. Et peut-être qu'on trouvera des pistes entre hommes et puis on laissera tranquille les femmes.
Il y a aussi des pistes à trouver tous et toutes ensemble aussi, mais effectivement, ouais. Comme tu disais Victor, que chacun peut-être prenne un peu en charge déjà sa responsabilité, etc. Puis partageons ça ensemble, voyons ce qu'on peut faire. Mais ouais, moi, c'est sûr que j'aurais... Pardon, c'est peut-être très con ce que je vais dire, ou condescendant. Je sais pas trop si je suis à l'aise avec ce que je vais dire, mais j'aurais plus de patience et je serais plus encline à vraiment discuter avec des hommes où je sais qu'il y a cette envie de un peu déconstruire les choses, il y a cette envie de... Comme j'aime discuter avec vous, en fait, et j'ai cette patience-là avec vous que je n'ai pas avec d'autres, que je n'ai plus du tout avec d'autres, parce que je sais qu'ils ne prennent pas forcément leur responsabilité dans cette relation ou dans cette histoire, dans ces relations de manière générale. Et ça ne m'intéresse plus, enfin, parler avec des hommes qui prônent, en tout cas, qui n'ont pas du tout conscience de leur masculinité, et leur masculinité un peu toxique parfois, c'est... Je n'ai plus le temps, je n'ai plus l'énergie pour ça, clairement.
Mais j'ai l'impression que souvent, ça arrive assez souvent qu'il y a un désir de déconstruction de la part des hommes, mais qui ne va pas beaucoup plus loin finalement, qui s'arrête à des discussions avec des femmes de leur entourage, qui effectivement font un peu tout le boulot, mais derrière, il n'y a pas forcément les lectures... les écoutes de podcasts, documentaires, peu importe. Et voilà, je pense qu'il y a plein d'hommes qui aimeraient se déconstruire, mais qui comptent, comme tu disais, toujours sur les femmes de leur entourage pour faire le boulot, quoi. Moi, j'ai pas forcément confiance quand un homme dit de lui-même qu'il est déconstruit et ou féministe et ou voilà.
Je te rejoins là-dessus. Moi, j'ai plutôt la notion de je suis en train de me construire, moi. je suis pas en train de me déconstruire, j'ai l'impression que on m'a pas filé les bases du logiciel de...
T'as pas eu le bon catalogue.
J'ai pas eu le bon catalogue, je pense, il devait être périmé ou un truc comme ça. Et clairement, moi, je me sens en construction de moi-même, pas en déconstruction de quoi que ce soit, en fait. Là, moi, je vais chercher des choses qui font de moi, du coup, l'homme que j'ai envie d'être depuis que j'ai commencé à réfléchir. Et donc, ça, c'est petit bout par petit bout et... Et donc, ouais, là, je me considère en construction, pas en déconstruction.
Même s'il faut peut-être déconstruire certaines choses pour en reconstruire derrière, mais oui.
Mais oui, là-dessus, je te rejoins sur la déconstruction, mais pour moi, c'est pas je ne vais pas tout déconstruire et reconstruire, ça va être à chercher justement à enlever des choses parce que je me suis nourri de quelque chose. Donc, du coup, c'est plutôt une sorte de... Je fais le geste, mais on est à la radio. Donc
de balancer.
Ouais, exactement. Ouais. Je mime trop bien. Merci Lola.
Et t'as du super vocabulaire.
T'as du balancier. Incroyable.
Je retrouve ce que je voulais dire.
Tu te méfies des gars qui se disent déconstruits.
Oui, voilà, c'est ça. Qui, à la limite, en déconstruction, oui, mais déconstruit, ça voudrait dire que c'est terminé. Quoi. Ça y est, ils ont tout lu, ils ont...
Et je suis cassé, regarde.
Oui, c'est ça. Et je suis reconstruit derrière, nickel, c'est fini. Bah non, parce que c'est jamais fini. En tout cas, je vais parler de moi en tant que femme. Même moi, je déconstruis plein de trucs parce qu'on a quand même toutes et tous été élevés dans la même société patriarcale. Hein, donc, on a aussi des schémas misogynes et sexistes, hein, même en tant que femme, même si on les déconstruit toute sa vie. Je pense que voilà, on les déconstruit toute sa vie, c'est jamais terminé. Et on en apprend tout au long de sa vie, et sur tous les sujets. Et là, on parle de masculinité et de féminisme. Mais...
Et puis, si je peux rajouter à ce que tu dis, il y a aussi malheureusement un phénomène là-dessus de, des hommes qui se disent déconstruits. Et en fait, je parle d'un phénomène parce que c'est arrivé beaucoup, en fait, et que ça existe, mais des hommes qui se disent déconstruits pour infiltrer les mouvements militants et les mouvements et s'incruster un peu sur... plein de groupes de personnes, et notamment de femmes, et pour continuer à dominer et agresser malgré le fait de, d'avoir des cheveux longs et du vernis à ongles et, voilà. Et une barbe. Et bah, du coup, ils vont s'infiltrer dans tout un tas de mouvements pour continuer leur système d'oppression. Et ça, c'est assez terrible. C'est assez terrible.
Voilà. Le vernis ne fait pas de vous des hommes déconstruits,
non.
Messieurs.
Non, non.
Même s'il n'y a pas de problème que vous en mettez.
C'est très joli, mais voilà. On va se faire une petite pause musicale. Gabi, t'as envie de rajouter quelque chose avant qu'on fasse une pause ?
Un petit pour oui. Donner une autre piste. Je pense que tu parlais de construire et de déconstruire. Effectivement, il y a selon moi une nuance qui est la focus où tu regardes. Si tu regardes à te construire, c'est un choix. C'est ce qui correspond. Moi, je sais que moi, je regarde beaucoup ce que je dois déconstruire. J'ai l'esprit tourné vers ça. C'est vraiment une histoire de focus qui est différente selon chacun.
Quelle chanson on met ?
Vous avez tous les trois choisi une chanson, chacun.
Laquelle.
Qui est-ce qui a envie de passer en premier ?
Oh non, la mienne n'est pas drôle. Hein.
Ah bah celle de Victor. Alors que celle de Victor.
Alors que celle de Victor.
Eh ben Victor vendu.
Je peux donner le contexte.
Ah bien oui, sûr, évidemment. S'il te plaît, même. Vas-y.
Ben en fait, je me suis rendu compte il y a quelques années que j'avais tendance à dénigrer les productions qui étaient faites à destination des femmes et des filles. Comme étant, comme on dit quand on est petit à l'école, c'est des trucs de filles, donc c'est de la merde. Et je pensais que je m'étais séparé de ça quand je suis arrivé à la fac et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes les œuvres que j'appréciais, j'étais capable de les genrer et de me dire ça, c'est, ça a été créé pour tel genre, celui-là pour tel genre et tout ça. Et que j'avais un peu moins de respect pour celles qui étaient faites pour les femmes. Et donc j'ai essayé de re-regarder ces choses. Je peux citer pour que ça soit peut-être moins flou, mais des films comme Twilight, des Disney, dans les jeux aussi, qu'on a Animal Crossing là, qui est sorti, qui vise un public féminin. Et de les regarder en me disant, est-ce que ces jeux, je les aime pas, ou ces films, je les aime pas, parce qu'ils m'intéressent vraiment pas, ou parce que c'est une sous-culture parce que c'est pas une culture d'homme. Et quasiment tout le temps, c'était parce que c'était une sous-culture. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Qu'un jour, je suis tombé sur La Reine des Neiges. Je me suis dit, bah, je vais regarder La Reine des Neiges avec un regard plus détendu, quoi. Enfin, sans me dire que c'est forcément de la merde. Et en fait, ça m'a énormément touché, mais beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Et aujourd'hui, s'il y a 5 films qui m'ont le plus touché, La Reine des Neiges, il est dedans.
Ah ouais, wow. Génial.
Et le 1 ou le 2 ?
Bah, j'ai du mal, les deux me touchent énormément. Et j'ai du mal à savoir pourquoi ça m'a autant touché. Je dis donc que sur le plan pratique, je pense qu'il y a des belles choses dans La Reine des Neiges, dans le sens où ça raconte le pouvoir de la sororité, plutôt que des couples, comme on l'a beaucoup vu chez Disney avant. Il y a des personnages de femmes qui parlent entre eux, pas d'hommes, mais qui parlent entre eux d'elles. Et donc il passe certains tests féministes réjouissants. Mais je ne suis pas sûr que ce soit pour ces raisons-là que ça m'a touché à ce point-là et que je m'identifie à Elsa, qui est le personnage principal à ce niveau-là. Et donc apprendre à aimer des trucs de filles, ça a été une grande étape. Et bizarrement, ça m'a fait beaucoup de bien. Et maintenant, dans ces 5 films qui me bouleversent à chaque fois que je les vois, il y en a une comédie romantique. Et il y a La Reine des Neiges 1 et 2 qui sont certainement là parce que je les regarde tous les 3 mois, quoi, à peu près.
Oui,
et je pense que ça m'a appris quelque chose de moi, quoi. Bon, là, on va le passer, je vais enlever le casque et tout parce que ça va me faire chialer, je sais.
Ouais,
je l'ai déjà écouté 2 fois la dernière fois pour le sélectionner. Et donc, bah, pour donner contexte, c'est une comédie musicale. Et ça, c'est une chanson extraite du 2 dans lequel le personnage principal... cherche l'esprit de sa mère qui est morte en mer quelques années plus tôt. Ça se passe dans une caverne de glace et bon, en termes d'animation c'est assez spectaculaire, c'est très beau ce qui est fait. Et je l'ai mis en VF pour qu'on comprenne les paroles parce que je les regarde surtout en VF, mais quand j'écoute les CD j'écoute plus en VO. Mais comme j'aime bien la voix de Danny Boone dans Olaf, je regarde dans le...
Eh ben, on va s'écouter ça, Pierre. C'est bon souvenir pour nous aussi, Mélanie, n'est-ce pas?
Oui, on a découvert ensemble La Reine des Neiges 1 et 2.
Sur vidéoprojecteur, gros son, et pour le plus grand plaisir de ton cher et tendre.
Oui, qui s'est endormi, lui. Il a encore ce travail à faire. Bon, après, il s'endort devant n'importe quel film.
Constamment. Peu importe.
Big up, Lolo.
Big up, Lolo. On écoute ça.
Bien sûr. Oh, les glaciers sont des rivières de glace. Atoalan est une rivière gelée. Je t'entends. Et j'arrive. Je sens déjà mes mains trembler. Mais je n'ai pas peur. Prête à faire le grand saut.
quelque chose.
Oui, c'était dans la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure sur se sentir construit, déconstruit et tout. Et je me disais que moi, je me pose assez rarement cette question-là. Par contre, parce que j'ai l'impression que pour moi, c'est assez subjectif et j'ai du mal à savoir qu'est-ce que je mets derrière ces mots-là. Par contre, la question que je me pose, qui est vraiment parallèle à celle-là, c'est est-ce que j'arrive aujourd'hui à créer un contexte sain et égalitaire autour de moi au quotidien, qui est un peu l'aboutissement, je dirais, du travail qu'on peut faire en tant qu'homme. Et parfois, ça me fout un peu les boules. Je crois que j'ai pensé un temps que j'étais capable de le faire, que ce travail, tu le faisais une bonne fois pour toutes, lui, tu lisais 3-4 bouquins, tu faisais 2-3 séries de podcasts et c'était gagné. Et ça m'apparaît beaucoup plus complexe maintenant et beaucoup plus difficile. Déjà parce que j'ai l'impression qu'il faut que ce soit, c'est constamment une question qui se pose dans chaque rencontre. Parce que tous les réflexes, je ne sais pas si c'est des réflexes ou des stratégies, je ne sais pas vraiment où est-ce que ça se joue, mais ils reviennent hyper vite, quoi. Et l'information, elle est nécessaire au début, mais elle n'est vraiment pas suffisante pour la transformation, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'habitude, qui, d'abord au début, on prend des habitudes qu'on enlève. Et je dirais, j'ai rencontré une femme pendant 2 heures, où j'étais en classe et il y avait la moitié des élèves qui étaient des filles. Je vais réussir à avoir un comportement judicieux qui n'est pas un comportement neutre souvent, parce que souvent dans les classes, il y a déjà des inégalités qui se jouent. Donc c'est un comportement qui est proactif déjà qu'il faut que j'ai. Donc est-ce que je vais réussir à l'avoir pendant les 2 heures ou est-ce que je vais merder 5 fois? Et la fois d'après, je vais essayer de merder qu'une seule fois. Mais parfois, tu n'y penses pas, tu lâches parce qu'il y a une difficulté qui s'oppose à toi et tout ça. Et d'un seul coup, tu remerdes 8 fois, quoi. Et du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'acquis dans ces trucs-là.
C'est une histoire qui a quelques milliers d'années, je pense. Peut-être 2, au moins. Le patriarcat, ouais. Donc, c'est un truc de ouf qui est inscrit loin, loin, loin dans notre culture. Et ouais, du coup, ouais, il faut, je pense, plus que quelques podcasts, t'as raison. Et c'est un travail qu'on doit faire, au moins pour le début, tout seul, mais... En s'entraidant, super idée, et ouais, tous les jours, tout le temps.
Ouais, c'est de l'exercice, quoi. C'est des exercices quotidiens à faire, quoi. Et il y a des sociologues qui ont planché sur la question de l'habitude, et paraît-il que pour se débarrasser d'une habitude, qu'elle est 6 ans, 10 ans, 2 mois, il faut 60 jours. Ah ouais, moi j'avais presque 3 mois. 21 jours, ça paraît si peu.
Ouais. 60 jours, c'est 60... pas presque 3 mois.
À vérifier.
Pardon.
C'est pas presque 3 mois ?
C'est un mois et demi. C'est carrément 60 jours. C'est carrément 2 mois tout pile.
Ah, c'est 2 mois tout pile. Oh, excusez-moi.
Non, pardon.
Fais bien de me reprendre, Mélanie. Pardon. Non, mais du coup, peut-être que les 60 jours, ils sont pour se débarrasser d'une habitude et en créer autre chose derrière, plus que juste 21, j'en sais rien. Mais il paraît que c'est assez court, finalement, comme temps, pour se débarrasser d'une habitude. Je trouve ça plutôt rassurant. C'est-à-dire que même si on a 10, 15 ans, moi j'ai 28 ans aujourd'hui, j'ai peut-être 28 ans de conditionnement sur certains trucs, parce que comme tu le disais Mélanie tout à l'heure, on a tous et toutes grandi dans la même société. Et bah finalement, changer une habitude, ça peut potentiellement pas prendre tant de temps que ça. Et donc virer une habitude, c'est un exercice quotidien pour essayer de remplacer par une autre, tester d'autres choses aussi. Il y a forcément des moments où on va se planter, moi en tant que meuf dans mes interactions avec d'autres. Il y a des moments où ça va être plutôt nickel, plutôt cool, où il y aura pas d'humour oppressif, il y aura pas de propos genrés, il y aura pas, enfin voilà. Et il y a des moments où juste parce que je zappe, parce que je suis fatiguée, parce que je suis un peu plus vulnérable à ce moment-là, parce que machin, où il y aura la vieille habitude qui va refaire surface en disant coucou, je suis toujours là, tapis dans le fond. Bah ouais, c'est quotidien comme exercice. C'est quotidien, mais comme tu dis, Gabi, si on est tous et toutes dans cette énergie-là, en tout cas si on est beaucoup, si on s'entoure de ces personnes-là qui ont vraiment envie, c'est hyper porteur. C'est vraiment hyper porteur, c'est hyper safe et hyper porteur.
Pour tout le monde. La meute.
La meute.
Et puis j'ai l'impression qu'il y a des sujets, une fois qu'on a ouvert les yeux, c'est impossible après de les refermer. Enfin, je sais pas, moi j'ai pas vu Matrix, mais il paraît qu'une fois qu'on a pris la petite pilule ou quelque chose comme ça, c'est bien ce film-là.
C'est ça.
C'est un film de mec, j'ai pas vu. Après, je trouve qu'on voit plus que ça. Enfin, c'est pas qu'on voit plus que ça, mais on peut transposer ce regard tout le temps et sur toutes nos interactions. Et après, évidemment, c'est pas parce qu'on a vu qu'on va changer nos habitudes, mais déjà, c'est la première étape.
Puis aussi, je pense que ça prend des formes qui te surprennent tout le temps. En fait, c'est que tu nommes ça une habitude que tu as, quand ça a lieu deux fois exactement pareil. Je sais pas, repas à table où tu as coupé la parole à tout le monde. Non, en fait, déjà là, il y a un millier de repas à table où tu peux être amené à couper la parole à tout le monde. Parfois, je sais pas, moi, genre, je suis au contact avec un prof dont je suis pas en accord avec sa façon de faire. Ça m'est arrivé trois fois, ça. Mais à chaque fois, c'était des profs tout à fait différents, pour des raisons tout à fait différentes. Et quasiment à chaque fois, je me suis merdé la première fois. Et c'est que quand ça a eu lieu exactement de la même façon que j'ai su identifier... Ah, punaise, je me souviens. Cette prof, elle refuse d'appeler il, cet élève, alors parce que sur son carnet, c'est marqué elle. La première fois, je comprenais pas ce qui se jouait. Elle me dit ça, j'arrive pas à identifier s'il y a déjà eu un discours entre les deux, s'ils ont parlé et tout ça. Et à la fin de la conversation que je comprends qu'en fait, c'est ce qui s'est passé, c'était pas bien, c'était pas normal. Et c'est que la fois d'après que j'arrive à piger que ça merde. Mais du coup, toutes les habitudes que j'ai, ça m'empêche pas de me planter quasiment à chaque première fois. Et elles ont lieu chaque année, ces premières fois. Enfin, tout le temps, quoi, finalement. C'est ça qui me...
Tu veux dire
qui me fout les boules.
Je comprends pas bien. C'est que tu mégenres ou c'est que tu fais une bourde vis-à-vis du prof ou vis-à-vis
C'est que je me dis j'aurais dû être différent. J'aurais dû dire tout de suite, je valide pas ce que tu es en train de me dire.
Ah oui.
Et je pense même clairement que tu pourrais faire autrement parce que ça. Mmh. Et parce que je le sais, j'ai lu sur ce sujet-là, je sais qu'est-ce qu'il faudrait que je dise. Mais à ce moment-là, alors que pourtant, j'ai pas de mal à m'exprimer avec cette personne, ça va trop vite les informations. C'est la première fois que je me retrouve dans le cas d'une personne qui refuse de dire « il » au lieu de « elle » à une personne qui lui demande pourtant explicitement et qui lui dit « ça me fait mal quand vous dites « elle ». Et pourtant... Pourtant, je merde. Pourtant, j'arrive pas à un moment à venir en...
Ouais, et je pense que... Peut-être je réfléchis en même temps que je parle. Mais à d'autres échelles, c'est le même ressenti que je viens de me prendre une réflexion, une blague sexiste, et je sais pas comment réagir là-dessus. Parce qu'il y a un temps de sidération.
Ouais.
Il y a une info qui vient de m'être donnée. Le temps que l'info monte, que je calcule, que ce que je comprenne bien, est-ce que j'ai bien compris ce que mon interlocuteur ou interlocutrice était en train de me dire, machin, tout ça... Le temps de trouver, toi, comment répondre à ça de la façon la plus juste. Tout ce temps-là, et faire le tri entre tes propres jugements, les jugements de l'autre, comment adapter ta communication pour bien amener l'information en face. Waouh, il y a plein de trucs qui se jouent à ce moment-là. Il y a toujours un temps de sidération. Et ce temps de sidération, il est assez terrible. Moi, c'est ce qui me fait un peu rager quand j'ai un entourage professionnel qui me fait une blague bien, bien sexiste, bien dégueulasse, y a un temps de sidération de... Et après, tu dis, attends, oula, qu'est-ce qu'il vient de dire, là? Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est chaud, j'aurais dû répondre ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. En fait, pour tout un tas de barrières, et d'habitude aussi, sur un autre plan, mais d'habitude de fermer ma gueule et de... J'ai pas à répondre à ça, il faut que je fasse un sourire gêné, genre... Excellent, super drôle. On m'a appris, entre guillemets, à répondre comme ça. Une prochaine fois tu dis vas-y, la prochaine fois j'ai envie de pouvoir répondre ça, j'aurais envie de pas laisser passer ou de agir autrement, mais ça demande une ressource importante quoi, ça demande vraiment une ressource importante. Mais je pense que ouais, ce que tu décris là, je sais pas, peut-être je me plante, mais je trouve qu'il y a une espèce d'instant de sidération quoi, de qu'est-ce qui vient d'être dit, qu'est-ce qui vient de se passer, bon comment je ferai la prochaine fois.
C'est juste que je pense que pour moi c'est moins dur. Parce que souvent, c'est l'autre qui est agressé. Enfin, c'est une autre personne. C'est pas une... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je rajouterais qu'on peut le comparer dans une certaine mesure. Quoi. Parce que moi, ce Félix, à qui on dit « elle » constamment, c'est lui qui prend cher. Moi, je suis juste spectateur de ça. Et ça ne me remet pas en question, tout ça. Ouais. Manifestement, si, un peu.
Mais ça remet en question
l'ego de se dire... Est-ce que je pense qu'aujourd'hui, je m'intéresse à ces questions parce que ça me valorise. Parce que ça me fait de moi quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui est capable de se remettre en question. Et ça, c'est des valeurs qui sont vachement appréciées dans la société. Et c'est pas la peine de faire comme si c'était pas le cas. Aujourd'hui, si j'étais pas valorisé par ce mouvement-là, ça se trouve, j'en aurais rien à foutre. Et du coup, là, cette question de la valorisation aussi, elle était en cause parce que... désolé, t'es pas un allié si t'es pas capable de répondre au tac au tac ou d'identifier quand il y a une violence comme celle-ci aussi rapidement, quoi. Et tu seras un meilleur allié si t'arrives à l'identifier la prochaine fois, donc tu seras plus performant dans ton travail et tac, Et là je suis à l'aise. Et là, moi, j'ai envie d'être performant.
Bah, et là, il y a la notion de performance. Mmh. Hey, c'est hyper honnête ce que tu dis.
J'avoue. Est-ce que tu penses que si tu... un moyen d'anticiper ce qui pourrait se passer si tu y vas en te disant peut-être que là je m'attendrai à ce qui est ça de dit ou ce qui est ça, je sais pas si c'est de se mettre dans la tête de l'autre, t'arriverais à arriver plus vite à déconstruire ça.
Ah ouais, parce qu'il y a des situations qu'on observe tout le temps, mais je pense que vous le voyez aussi quand vous sentez il y a une personne, ça pue la mort quoi, tu sais que il a encore rien dit, il a rien fait, mais il y a un petit truc.
On apprend à développer un radar, hein, clairement. Ah. Tu sens, même à deux tables, tout ça, tu repères, tu fais là-bas, je vais pas y aller, quoi.
À deux tables, tu parles en table.
Non, mais parce que j'ai... en fait,
tu t'imagines dans un bar ou tu t'imagines.
La dernière fois, on était au bar, toi et moi, ensemble d'ailleurs, Mélanie. Et,
comme d'habitude.
comme ça peut arriver. Et on était à un groupe, et effectivement, il y a la table d'à côté, il y a deux hommes qui sont assis et qui discutent, et en fait, il y avait ma. Pauline, qui était assise à côté de moi, et en quelques secondes, on a senti, on a vu ce qui se joue, on a fait waouh, là, on est sur des mascus bien comme il faut, et on n'ira pas. Mais oui, une espèce de radar, un truc. Mais pardon, tu n'avais peut-être pas terminé ce que tu disais. Ouais.
Sur des tout petits trucs de la façon de se positionner, des opportunités saisies ou pas saisies. Moi, je le vois si tu as un premier doute, parce que la personne, elle s'est placée de cette façon-là, à côté de. Je sais pas, quand il y a une élève qui a un décolleté. Et est-ce que la personne qui est en face d'elle, elle se positionne de telle sorte qu'elle ne voit rien et explicitement elle montre qu'elle n'est pas en train de mater? Ou est-ce qu'elle se positionne au hasard sur un putain d'angle pratique? Alors là, tu as un doute. Tu dis, c'est le hasard parce qu'elle essaie de regarder le moniteur. Bon, elle fait ça pour une autre raison. Tu as une deuxième occasion. C'est la deuxième fois qu'il y a ce mot qui est ambigu, qui est un peu trop sympa ou un peu trop... Et puis au fur et à mesure, t'accumules des preuves. Et quand tu le sens, du coup, tu peux être froid en amont ou tu peux retourner la chose ou dire que tu valides pas en amont. Par contre, parfois, tu t'y attends pas parce que l'enseignant dont je parlais tout à l'heure, je m'attendais pas à ce qu'il y ait ce déni.
Eh oui.
Et du coup, j'avais pas préparé. Je me dis pas.
Pas préparé à ce point, quoi.
Voilà. Mmh. Et là, d'un coup, je me dis putain, merde, ça colle pas du tout avec l'image que j'avais d'elle. Et du coup. Du coup, je change tout.
C'est peut-être ça qui est mince, qu'est-ce que je veux dire ? C'est facile à reconnaître un peu dans le masculinisme. C'est que tu le disais tout à l'heure, Mathieu, ça s'exprime par le corps, effectivement, ça se voit. Et donc, il y a quelque chose qui saute aux yeux un petit peu, que là, peut-être beaucoup moins, parce que c'était une autre forme d'oppression qui était plus difficile à déceler, parce que tu n'avais pas l'esprit focus dessus, en tout cas.
On va faire une petite pause musicale. Qu'est-ce qu'on choisit ?
Allons-y pour le groupe Ketekayes. Donc c'est un groupe de quatre femmes barcelonaises. Je l'ai récupéré pour venir ici en me disant je vérifiais ma playlist YouTube. Et du coup, ce qui m'a permis de voir aussi combien de groupes féminins ou de femmes se situaient dans ma playlist YouTube, c'est pas. Pas très très éclectique, en tout cas on n'est pas à la parité, mais par contre en tout cas ces femmes là quand elles chantent, la chanteuse a une voix qui me plaît vraiment, enfin en tout cas il y a quelque chose qui ressort et une émotion que j'adore, et puis je trouve que sur YouTube leurs clips ça envoie, qu'elles donnent la pêche en tout cas, et puis cette chanson là je l'aime bien, donc voilà, Ketekayes.
Et c'est parti.
El amor no tiene bandera, no tiene frontera, no tiene color. Oh, el amor no entiende de idioma, no importa qué os gusta, no tiene sabor. Va más allá del sexo, se lleva por dentro, se ofrece al resto. El amor es para sabias, no para necios, es para sanos, para aquellos momentos. Oh, donde no, donde no. Quieres vivir. El amor es para compartir, es solidaridad. Traigan un platito más para el que no lo puede pagar. Es liberar o curar un animal, es caminar después de una enfermedad, hacer soñar con la música. La la la, oh, la, 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 la.
quiere te quiere me. No temas, yo aquí estaré. Créete, créete, créeme. Aguántese fuerte.
Fuerte que el silencio enturbia, sudor de frente y la mano sucia. Defiendo a las mías con dientes y uñas. Olor a bosque, después de lluvia. Retumba por dentro, hace vibrar el techo. Viaja a través del tiempo, que no late bajo el pecho. Un aire nuevo se lleve lejos dolor y miedo. Y como brujas bailarle al fuego.
Quiérete, quiérete, quiéreme, hey. No temas, yo aquí estaré. Créete, créete, créeme. Aguántese fuerte, hey. Frontera no tiene color, oh, el amor, oh, no entiende de idioma, no importa que gusta, no tiene sabor.
Cada agresión, oh, tendré una respuesta y lo hago por ellos.
No sé si es la manera.
Yo pongo una vela a todos mis santos para que se te cure la mala.
Vous demander si est-ce que vous pensez que vous êtes des hommes sensibles. La tête de Gabi qui dit oui.
Bah oui. Qui n'est pas sensible?
Mais oui, tu dis bah oui comme si ça, oui, comme si ça paraissait être une évidence. Ah oui. Mais il y en a pour qui c'est être sensible ou se montrer sensible, c'est une très grande vulnérabilité, quoi.
Vulnérabilité. C'est pas la même chose, je pense. Mais oui, effectivement, il y a être sensible. Et il y a le montrer. Et c'est vrai qu'en tant que garçon, peut-être j'ai plus de mal à montrer, ouais, quand j'ai une larme qui vient, ouais. En effet. Mais par contre, sensible, ouais. Dans le sens où je suis pas coupé de ce que je ressens. Je l'ai été, mais en tout cas, j'ai l'impression que maintenant, ça va beaucoup mieux. J'arrive à ressentir quelque chose, à l'identifier, à dire « Oh, je me sens comme ça ou comme ça. » Et du coup, j'arrive à l'exprimer. Mais ça, c'est un apprentissage que j'ai dû faire tout au long de la vie. Mais comme tout le monde, je crois. Enfin.
Mathieu, t'as pas l'air hyper d'accord.
Je suis pas d'accord avec le comme tout le monde. Non, je pense pas. Ouais. Mais après, sur le se sentir sensible, en tout cas, oui, parce que clairement, les émotions, c'est là. Et du coup, la sensibilité elle y est. Se montrer sensible, je sais que c'est quelque chose qui est plus délicat, en tout cas. Et pour le coup, parce que c'est pas facile à gérer. Enfin, moi, je sais que chez moi, en tout cas, c'est quelque chose... Ça monte, ça prend, là, et puis hop, on respire vite, on ravale la salive, on ramène les larmes en arrière, et c'est pas quelque chose qui... en tout cas, que je trouve assez simple à faire. Après, ça m'est arrivé... je sais que j'ai presque pris plaisir à être triste et à pleurer à un moment, c'était après une séparation et j'étais en train de courir et en fait en courant il y a toute ma tête qui cogitait et en fait sur le moment en fait j'ai arrêté de courir, en fait j'ai pleuré en marchant et ça a libéré quelque chose qui était vraiment qui était un pas en avant sur ce que j'avais vécu en tout cas dans la séparation et qui était vraiment bon et j'ai l'impression que j'ai redécouvert aussi cette possibilité de pleurer. Et après, qui n'est pas quelque chose que je fais souvent en public, en tout cas, mais par contre, je me l'autorise plus souvent, en tout cas seul, quoi. J'ai l'impression aussi de réapprendre à avoir le droit, ou d'apprendre à avoir le droit de pleurer, au moins pour moi. Si j'ai envie, je le fais. Et après, en société, je ne sais pas quelles occasions, en tout cas, me permettraient de le faire, mais... Mais ouais, je suis pas sûr là-dessus en tout cas. Ça, je pense que c'est intériorisé, même si on m'a jamais, je crois pas, interdit de pleurer. Je n'ai pas souvenir d'avoir des remontrances comme pleure pas, t'es une fille, ou enfin, t'es pas une fille, ou un truc comme ça. J'ai pas l'impression d'avoir intégré ça, mais pourtant, c'est quand même là.
Ouais, donc, pour le coup, tu dis que c'est quand même une espèce de réflexe de ravaler, ouais. Et ça, c'est un automatisme, ou c'était un automatisme
Ouais, c'était. En tout cas, c'était ouais, même seul jusqu'à une période. Ouais, c'était vraiment le non, on pleure pas. Enfin, tu pleures pas, c'est tout. Tu pleures pas. Mais par contre, j'ai pas encore réussi à trouver l'élément qui fait que je me l'autorisais pas, en tout cas, ou voilà, je retournerai voir ma psy là-dessus.
Tu nous feras un petit débrief, ouais. Tu nous feras un petit appel, Mathieu, s'il te plaît.
Moi, je pleure pas mal, mais d'ailleurs, je vous poserai bien la question. Moi, ça me fait super mal de pleurer, mais physiquement. C'est-à-dire que je sais pas si c'est parce que mon corps veut pas, enfin, ou mon esprit veut pas que je pleure. Mais est-ce que ça fait mal de pleurer? Est-ce que c'est normal que ça fasse mal ou pas?
Sur le coup ou après?
Pendant qu'on pleure. Qu'on ait les muscles qui se tendent et que ça soit... C'est vraiment, c'est douloureux de pleurer.
Moi, ça se joue là.
Ok.
On a la radio. À la gorge.
À la gorge, c'est pas grave. Oui, Gabriel est en train de montrer la gorge. Ok.
Ouais, ça me fait mal.
Ok, ça fait mal.
C'est normal, mais je pense que oui. Parce que c'est le corps qui dit... Non, pleure pas, pleure pas, pleure pas, pleure pas.
Ouais.
Ouais, c'est peut-être une réponse du corps qui dit pleure pas. Oui, moi je vois bien ces sensations de douleur aussi dans la gorge, ou des fois à d'autres endroits. Des fois ça vient se loger à d'autres endroits. J'ai des muscles qui se crispent très fort aussi. Mais des fois c'est aussi peut-être sous le poids ou sous le coup d'une émotion qui est très forte et très vive. Mmh. Et que du coup, comme l'émotion est très vive et très intense, et bah, du coup, la façon dont elle sort, en fait, elle fait aussi mal parce qu'elle est très vive et très intense. Mais c'est pas toujours le cas. Enfin, je me dis, je sais pas, ça dépend de l'émotion. À quoi c'est attribué ou...
Ouais. Bah moi, que ce soit... je pleure beaucoup devant les films, déjà.
Ouais.
Et ça me fait mal aussi. D'ailleurs, ça me gonfle parce que je sais qu'il y a des films qui vont me faire mal physiquement. Après, on a lié beaucoup la sensibilité, le fait de pleurer. Peut-être parce que c'est un moment où on sent l'émotion particulièrement forte. Du coup, la question, est-ce qu'on est sensible? Moi, je pense que ce que j'ai répondu tout à l'heure sur ma capacité à devenir très froid, cassant, quand c'est dur. À ces moments-là, clairement, je dirais que je ne suis pas sensible. Ou en tout cas, j'ai tout un tas de stratagèmes, un plus ou moins automatiques, qui font que je me coupe de mes émotions quand ça devient trop compliqué, quand il y a du conflit. J'ai déjà vu des cas de... Pas forcément d'ailleurs autour de l'agressivité, mais j'ai eu des cas dans le milieu pro où il y avait un conflit entre... on était quatre. Je sais que les trois autres, elles n'ont pas dormi pendant toute la semaine à cause du conflit qu'il y avait. Et moi, je dormais très très bien, quoi. Et à aucun moment, il y avait d'agressivité où j'ai tout à fait réussi à ne pas être violent ou méchant. Et j'ai toujours voulu qu'il y ait du dialogue, et c'était autour d'éléments de langage. Et on était tous les quatre impliqués dans cette difficulté qu'on avait parce qu'on travaillait ensemble et que y avait un problème dans le travail, mais moi je dormais bien, et donc j'étais pas à ce problème, alors que les trois femmes avec qui je travaillais là, elles ont pas du tout vécu de la même façon ce conflit là et je sais pas si c'est forcément lié au genre, mais j'ai quand même eu l'impression que j'avais sorti ma maxi carapace et je me sens même en rendre compte, quoi. J'avais traversé cette semaine relativement bien par rapport aux autres, parce que je m'étais empêché d'être sensible.
Comme si on était capable de couper le cordon de nos sensibilités momentanément, c'est fini. Et puis de le renouer après, ouais. Plus ou moins, avec plus ou moins de facilité. Mais
ouais.
C'est les doigts dans les oreilles en disant « Là, 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 j'entends rien, je vois pas, j'entends pas. »
Ouais, ouais. C'est faire l'autruche.
Ouais, je pense. Enfin, je sais pas, peut-être une forme de ça. Hein.
Tu te sens pas agressé. Tu décides que c'est pas grave.
Ouais, mais est-ce que ça risque pas de te péter la gueule après?
Ah bah, j'ai le coccyx enflammé depuis 6 mois, on sait pas d'où ça vient. Et ouais. J'ai eu énormément de torticolis pendant pas mal d'années. Non, je pense que ça va quelque part.
Ah bah ouais, clairement, ce qu'on refoule, ça vient se loger ailleurs.
Ouais, et à chaque fois que je tombe chez un ostéo, il dit qu'effectivement, il a jamais vu quelqu'un d'aussi tendu, quoi.
Mmh.
Et qu'il faudrait vraiment faire un travail, parce que là, ça va finir en arthrose à 45 ans. Donc, si je pense que ça va quelque part, il n'y a pas de souci. Je ne dis pas que ce n'est pas des trucs qu'il y a. Par contre, automatiquement, je le coupe. Et je l'envoie dans un endroit qui n'est pas visible pour la société, quoi. Qui donne l'impression que ouais, c'est un problème pro, il n'y a pas de souci. On va régler ça tranquillement quand on va se voir.
Moi, j'ai eu un petit quelque chose qui m'a aidé là-dessus. C'est que j'ai appris que c'est moins douloureux d'avoir le cœur blessé un petit peu tous les jours, mais ouvert, plutôt que de le fermer, et que ce soit tous les 5 ans ou tous les 10 ans, tu vois. Et que, et que ça m'a aidé en fait à me rendre compte que ah oui là j'avais le cœur fermé et que quand je l'ai ouvert, quand c'est douloureux en fait, quand j'ai mal, je me dis ah chouette, là il était ouvert. T'as un bon indicateur qui me dit chouette, je suis content de souffrir. C'est un peu paradoxal. Mais je suis content d'avoir mal parce que je sais que ouais mon cœur était ouvert. Et quand c'est pas le cas, bah c'est pas grave. Maintenant ça donne un indicateur sur quand il est fermé et ce qui se joue quand il se ferme. Quoi.
Qu'est-ce qu'on écoute ?
Moi, je veux bien mettre la mienne qui est un peu plombe ambiance pour qu'on puisse revenir sur quelque chose un peu plus lié.
Okay. Tu peux nous expliquer ce que c'est, Gabi ?
Ouais, c'est une artiste qui s'appelle Lingua Ignota et qui est une femme qui a survécu à des violences conjugales et qui, du coup, en parle dans ses chansons. Vous allez voir, c'est pas très, très guilleret, mais ça correspond très, très bien à l'idée que moi je me fais du masculinisme. C'est un peu comme ça que je le vis aussi. C'est-à-dire que c'est très violent, très noir. Là, pour le coup, ce morceau-là, c'est un peu une incantation, des incantations, qui fait que tout brûle autour d'elle, quoi. C'est une grosse, grosse déclaration de rage.
Who will love you if I don't? Who will fuck you if I won't?
Everything burns down.
moi, je me demandais si vous vous reconnaissiez dans la masculinité traditionnelle et en quoi vous vous reconnaissiez et vous ne vous reconnaissiez pas.
Du coup, de masculinité traditionnelle, tu as des éléments précis que tu veux auxquels...
Ben, on avait noté, on s'était dit il faut être fort, il faut pas pleurer, il faut dominer, il faut pénétrer, il faut jamais ne jamais se féminiser. Voilà tout ce qu'on attend un peu de des hommes quoi dans la société patriarcale dans laquelle on vit.
Moi je me reconnais bien dans la masculinité David Bowie parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de variations autour pas mal de possibilités en tant que masculinité. Et on a une un peu... c'est une typologie, je crois, qu'il y avait dans le... Des hommes justes, là, de Yvan Jablonka, qui était une masculinité un peu transversale, dans laquelle tu t'autorises à prendre des choses de la féminité, des choses de la masculinité. Et il donnait comme exemple David Bowie, qui fait tout un travail sur son physique, qui se transforme, qui se maquille, qui met même qu'à tantôt des voix plus aiguës, des voix plus graves et tout. Et je me dis que c'est un peu la liberté ultime d'être capable de façonner un peu ta façon d'être en piquant partout, quoi. Et je me suis rendu compte que j'aimais bien ça. Pas dans le sens où je me suis dit, tiens, c'est ça que je veux être, mais dans le sens où je me suis dit, tiens, ça ressemble bien à la liberté que je prends en piquant des codes. Alors je parle surtout peut-être de l'apparence, là. Mais des codes vestimentaires de tel genre, après de tel genre, d'autoriser à porter des couleurs vives et tout ça. Et je me suis dit, tiens, ça c'est vrai que j'ai un peu tendance à faire ça. Et ça me pose pas de problème. Enfin, je la trouve pas particulièrement toxique, peut-être cette façon d'être. Ça me vaut de me faire souvent appeler madame quand je rentre dans les restos et les magasins. Mais ça c'est surtout lié à mes cheveux, je pense. Depuis quelques mois, c'est assez fréquent.
Ils sont longs.
Voilà. Ouais. Moi, là-dedans, là, dans les termes que tu donnais, il y a le « soi fort » et je le transformerai en « soi parfait ». Ça, c'est quelque chose que je sais que j'ai, qui est présent un peu partout, quoi. Je suis dans mon quotidien, dans mon côté pro, il y a ce côté « soi parfait », il faut faire les choses bien, il faut que ce soit carré. Et du coup, j'attends aussi la même chose des autres. Et du coup, ce qui me pose en tout cas des cas de conscience, pas tous les matins et pas tous les soirs, mais voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait ça en tout cas dans, je sais pas combien de temps j'ai découvert ça, il y a peut-être 4-5 ans, mais ouais, ce soi parfait qui est tout le temps là en fait, je me rendais pas compte que depuis que j'étais jeune en fait, je suis là, il faut que ça soit réussi, il faut que j'arrive à faire ça, il faut que j'arrive et je m'obligeais du coup à le faire, et là je sais que potentiellement, maintenant, je commence à réfléchir un petit peu plus. Autorise-toi à redescendre le niveau, autorise-toi à ce que les autres, potentiellement, aient aussi leur niveau. Mais ouais, en tout cas, le soi parfait, il est un peu usant.
Il impose une grande exigence pour soi-même et pour les autres, du coup.
Ouais, ouais, c'est ça.
Donc ça met beaucoup de pression, quoi. Et beaucoup, peut-être que ça place beaucoup d'attentes qui sont difficiles d'être...
Oui, puis qu'on n'attend pas de moi, en fait. Enfin, clairement, il n'y a personne qui m'a demandé ça. Et ouais, là-dessus, il y a des pistes en ce moment. Il y a du lâcher prise aussi à s'autoriser là-dessus. Mais celui-là, en tout cas, dans ce que tu pouvais dire, là, il y a celui-là, il est là. Et pour le coup, il est fort. Il est bien ancré, quoi.
Il y a les vulnérabilités aussi, j'ai l'impression. Le fait d'être parfait et de ne pas avoir de failles. Et donc de ne pas montrer aucune vulnérabilité. Moi, j'ai l'impression que c'est là-dessus que ça s'exprime. Et je remarque que en fait, ce qui est touchant, dans la plupart du temps, c'est que quand elles sont montrées, elles sont ouvertes, quand elles sont assumées, quand elles ne sont pas vécues comme quelque chose de pesant et de terriblement inébranlable, une vulnérabilité, c'est tout ce qu'il y a de plus beau. Moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau. Justement, ce qui me fait peur, c'est quand je suis coupé des vulnérabilités des autres. Ça me fait un peu peur. Quand j'ai l'impression que l'autre est parfait. Et ouais... ça répond pas trop à la question, mais je pense que ça explique pourquoi beaucoup vrillent et pourquoi, ouais, les chiffres que vous avez cités au début sont affolants. C'est parce que, ouais, peut-être ça compte, il y a une volonté d'être parfait qui est totalement incompatible avec l'expérience d'être humain, en fait.
Ouais, c'est là où je te rejoins justement sur là, ce que j'ai repéré, moi, c'est juste, en fait, un peu de communication. En fait, ça aide. Voilà. Et ça, c'est des choses que je faisais pas du tout auparavant. Et là, pour le coup, la dernière en date, c'est avec, ma responsable où ça faisait un mois, je pense que je traînais un poids que je me suis mis tranquillou sur moi-même et
de façon totalement autonome.
C'est ce qu'on appelle l'autonomie de l'adulte.
Voilà.
C'est
à un moment
donné, voilà. Oh, d'accord.
Voilà. Et clairement, en fait, ça m'a pesé. C'est des nuits de sommeil qui sont coupées. Enfin voilà. Et puis on tient. Et puis jusqu'à un moment donné, je me dis bon, faut que j'aille parler. Enfin voilà. Et pour le coup là, je reviens un peu sur les pleurs là, mais clairement l'émotion est montée. Quand on a échangé, j'ai respiré, il y avait cette notion encore de sois fort, pleure pas devant ta responsable, ça, pour moi il y avait rien qui se jouait, au contraire je pense que ça aurait été beaucoup plus humain. Mais par contre une fois que j'ai verbalisé devant elle en fait que là j'étais dans la peur, vraiment de pas réussir à faire mon travail correctement, elle m'a demandé t'as besoin de quoi, t'as fait voilà, on a discuté, je suis ressorti de là. Comme une petite fleur sur son nuage, tranquille.
J'adore cette image. Oui, fleur très mignon sur un nuage, ça n'a aucun sens, mais tout est. Oh, ouais, l'image est super belle.
C'est la facilitation graphique, ça.
T'as fait 2 jours de formation là-dessus, il s'agirait de.
Voilà, donc maintenant je mets des fleurs, des nuages partout. Voilà, des images partout. Mais clairement, c'était. C'est ce genre de choses que je commence aussi à intégrer qu'à un moment donné, en fait. Si ça va pas, c'est qu'il y a quelque chose à dire. Et s'il y a quelque chose à dire, il faut aller chercher ce qui se joue, clairement. Et je reviens encore sur la peur, mais quelle est la peur qui se joue là? Et du coup, se dire de quoi j'ai besoin. Bon, là, après, ça, c'est plutôt ma psy qui me dit de quoi j'ai besoin. Et clairement, en fait, ce travail-là, il arrive et j'arrive à repérer le besoin qui se joue. Et souvent, c'est d'être rassuré, d'être câliné, de prendre un temps... pour moi. Et une fois que je fais ces étapes-là, en fait, j'ai répondu, j'ai éloigné la peur et clairement...
T'as nourri tes besoins.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
Je pense que si l'homme, deux pieds dedans volontairement, avait accès à ses besoins, donc à ses émotions qui indiquent les besoins, il y aura peut-être moins d'handicapés émotionnels, quoi. C'est un handicap, en fait, je pense, vraiment.
Bah, vu ce qui se joue, vu ce qui se joue chez moi en termes de... en termes de manque de sommeil et de la productivité au travail, mais même juste de plaisir à aller au travail, ouais, je te rejoins.
Et le fait d'avoir montré tes failles et ta vulnérabilité, finalement, c'est ce que tu disais quand tu parlais de communication, ça a arrangé les choses. Enfin, le fait de pas montrer que t'étais parfait en toutes circonstances, mais de dire en effet tes besoins et de montrer tes failles, ça a fait que vous avez pu arranger la situation, c'est ça?
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Juste, petite demi-heure.
Pour 2 mois d'angoisse.
Ouais, c'est ça.
Ça va, ça a duré que 2 mois.
Ouais. Est-ce que vous auriez, dans vos valises, dans vos poches, dans vos sacs, dans vos têtes, où vous voulez...
Ça peut être dans les trous de nez.
Oui, ouais. Oui, ça peut être dans les trous de nez, si tu veux. Des recommandations? Des podcasts que vous avez écoutés, des livres que vous avez aimés, des films que vous avez regardés, des tableaux qui vous ont ému, tout ça, peu importe ce que c'est, mais voilà, est-ce que vous avez envie de recommander des choses à nos auditrices?
Ouais, moi je me souviens plus très très bien, parce que j'ai pas bien révisé avant de venir.
Bravo!
Je crois que c'est un podcast, je crois que ça vient de Victoire Tuaillon et des Couilles sur la table. Et ça raconte l'histoire de Cédric, le portrait d'un masculin un peu différent. Et je me souviens notamment d'un test qui est très très intéressant. Je crois que c'est ça s'appelle Cédric, un masculin, je n'ai plus.
On retrouvera, on mettra ça dans l'article du podcast de toute façon. Référence exacte.
Et c'est un premier pas, c'est chouette, très chouette.
Bah, Victoire Tuaillon avec les couilles sur la table, c'est d'ailleurs que des épisodes qui parlent de différentes masculinités.
Exactement, ouais.
Avec des invités différents à chaque fois.
Ouais, bah, moi, sinon, j'ai le dernier livre que tu m'as fait lire.
Je t'ai fait lire, je te l'ai imposé.
Tu me l'as fait lire, mais encore une fois, la charge féminine sur. Tu me l'as posé,
non,
t'as dit, s'il n'est pas lu.
Questionnement pertinent, je me suis dit, tiens, ça, à ce moment-là, c'est.
Ouais, c'est du coup, là, c'est après les couilles sur la table, le cœur sur la table, je l'ai dévoré, quoi. Moi qui ne suis pas un grand lecteur, en tout cas qui ne passe pas énormément de temps à lire, c'est de la découverte, mais c'est. Ça amène à re-questionner et puis ce que je te disais tout à l'heure, c'est ce matin à 6h du mat', j'étais à mince, faut que je le rende. Du coup, j'ai repris tous les trucs, les podcasts, ça ouais, les bouquins, ça ouais, et je me suis fait ma liste de BD, de machin, de trucs, parce que bah, je savais que si je l'avais pu, en fait, moi, mon accès, il était là pour ce cadre-là de livres, et je l'aurais pu, quoi. Donc voilà, donc là, je vais pouvoir avoir d'autres références une fois que je les aurais lues.
Bah, autant les couilles sur la table, c'est Victoire Tuaillon qui parle, enfin, en tout cas qui interviewe pas mal d'hommes sur leur masculinité différente, et c'est toujours Victoire Tuaillon qui fait le cœur sur la table, et là c'est vraiment, on parle de révolution romantique, mais dans un autre podcast que nous avons enregistré il n'y a pas très longtemps, une personne invitée a aussi recommandé et les podcasts du cœur sur la table et le livre pour une révolution romantique, quoi. C'est identifier ce qui se joue vraiment dans les relations amoureuses, et une fois que c'est identifié, comment on fait pour modifier un peu des trucs. Ça donne plein de pistes, c'est plein de ressources dans ce bouquin et dans les podcasts pour continuer justement à chercher encore plus, à déconstruire encore plus de trucs, à identifier encore plus de choses. C'est assez passionnant.
Ouais.
T'as des étoiles dans les yeux, Lola, quand tu parles de Victoire Tuaillon.
Parce qu'elle m'a un peu sauvé la vie. Il y a des bouquins comme ça de temps en temps qui sont un peu des bibles pour moi et qui me sauvent la vie, dans lesquels j'ai vraiment besoin de me remettre le nez de temps en temps. Dans... Ah oui, j'avais oublié, mais je vais appliquer ça, je vais faire ça et on va s'en sortir. Il n'y a pas très longtemps, c'était Pauline Armange avec son bouquin « Moi, les hommes, je les déteste ». J'avais besoin de me remettre le nez dedans de temps en temps pour ne pas oublier de « oui, attention !» Un très très bon bouquin. Et donc le cœur sur la table, ces derniers mois, ça a été un peu ce qui m'a sauvée, ouais, clairement.
Moi, il y a un documentaire qui s'appelle « Sans frapper ». Qui raconte, qui donne la parole à des personnes ayant été victimes d'agressions sexuelles, et qui est très beau et qui est très fort, qui m'a beaucoup touché. Il y a une série anglaise qui s'appelle Fleabag, qui est accessible sur Prime Video, que j'ai vu pas mal de fois, qui est assez courte et qui est très féministe et qui est extrêmement marrante. Et Fleabag, le personnage principal, il est très inspirant. C'est une série que je trouvais très puissante. Promising Young Woman, que j'ai vu il y a pas très longtemps, qui m'a beaucoup touché aussi, qui a été très puissant aussi pour les, ouais, pour les films, il y a ça. Il y a aussi une série américaine avec Kate Blanchett qui raconte l'histoire des mouvements féministes autour des années 60, mais par le prisme d'une anti-féministe. Kate Blanchett, elle joue en fait une femme qui se bat contre un amendement pro-égalité. Et j'ai trouvé ça... Donc la série, elle est résolument féministe, mais elle choisit de raconter toutes ces grandes figures qu'on connaît du féminisme américain, mais par le prisme de l'opposition. Et qu'est-ce qui a fait réagir, notamment les femmes, contre ce désir d'égalité dans la société américaine, que je trouvais vraiment, vraiment dingue.
Ouais, c'est hyper intriguant et hyper intéressant, mais est-ce que du coup ça dessert un peu le propos? Non, tu dis que ça reste
pas
une...
Ouais, pas du tout. C'est okay. Vraiment... Tu découvres Gloria Steinem, par exemple, via les oppositions qu'on lui fait, mais le... Bah, c'est là qu'on sent qu'il y a toujours un point de vue quand on fait de la mise en scène. C'est raconté de telle sorte que ça te permet de mieux comprendre les difficultés qu'a le féministe de l'emporter dans plein de situations, tous les freins qui sont apportés. Et puis ça raconte quand même une époque où les féministes, elles étaient très très puissantes au Congrès, et beaucoup de pouvoir qu'elles ont perdu dans les années qui ont suivi. Donc ça dessert pas du tout. C'est vraiment, okay. C'est vraiment une série féministe, quoi.
Ça s'appelle comment?
On trouvera. Elle est sur Canal+.
Ça marche.
Ouais. En série. Et ça s'appelle Mrs. America. Voilà.
Okay.
Mrs. America.
Moi, j'ai une petite dernière aussi que je pense comme ça. C'est... C'est pareil, j'ai plus le nom, bah, on donnera, mais c'est 45 minutes, c'est un documentaire sur la communication non violente en milieu carcéral. Absolument saisissant aussi, d'apporter comme outil la communication pour des gens qui sont déjà en prison. Ça fait beaucoup pleurer aussi.
On notera ça dans l'article du podcast. Mélanie, est-ce que tu as des recommandations?
Moi, je voudrais parler du spectacle... d'un homme qui s'appelle Laurent Sciamma, qui est nul autre que le frère de Céline Sciamma, réalisatrice féministe de films vraiment super. Donc il a grandi avec cette grande sœur et d'autres sœurs, je crois, qui fait qu'il est l'homme qu'il est aujourd'hui. Son spectacle s'appelle Bonhomme, ça parle de masculinité, et c'est vraiment super. Moi, quand je suis sortie de là, enfin nous, quand on est sortis de là avec mon conjoint, on s'est dit... Il faut que tous les hommes qu'on connaît voient ce... Et toutes les femmes, mais bon, tous les hommes en tout cas, voient ce spectacle. C'est très drôle, c'est très touchant, ça parle d'une autre masculinité, de la sienne et de relations avec des hommes en amitié. C'est vraiment très très beau. Il passe à Paris régulièrement au théâtre. Vous savez, le théâtre qui a été créé... comment ça s'appelle ? Théâtre de l'œuvre ? Non, je ne sais plus. Le théâtre qui a été créé par Romain Bouteille ? Non, tant pis.
Okay. On est très très fort en référence ce soir. Hein,
on a tout oublié, nos cerveaux sont grillés.
Moi j'ai deux dernières petites recommandations et après on va devoir se dire au revoir. Axel Latuada, qui est un gars qui a monté une chaîne avec ses potes, il a commencé par Et tout le monde s'en fout. Mais il a aussi sa chaîne à lui perso où il parle beaucoup de masculinité, de ce que c'est que d'être un homme qui a envie de déconstruire plein de choses mais qui se confronte à plein de regards. C'est plein d'humour, ça aborde plein de sujets très différents. Il est très actif sur son Instagram aussi où il fait plein de choses. Enfin, vraiment, c'est très bien fait. Il s'entoure de personnes hyper intéressantes. Comment être un bon allié aussi, ne pas parler à la place d'eux mais toujours sous couvert d'être validé par quelqu'un qui est concerné. Enfin, bon, c'est... Vraiment, il est hyper intéressant, il est très drôle. Et deuxième petite chose, pour tous nos auditeurs, c'est pour vous autour de la table, mais bon, je ne pense pas. Il y a un test qui existe pour un test de masculinité toxique. Est-ce que nous sommes dans une masculinité toxique ou pas ? On l'a fait.
Enfin, on a eu peur aussi au début. Enfin, moi, j'ai eu peur, je me suis dit... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et en fait, non.
Non, ça vient d'un truc qui s'appelle IDR Labs. Et en fait, ils font énormément de tests, mais qui regroupent pas mal d'études sociologiques. Les questions, elles sont quand même plutôt un peu travaillées. Mais voilà, si vous avez un doute, chacune, de savoir est-ce que je suis dans une masculinité toxique, il y a un test à faire et vous verrez bien. Merci beaucoup de vous être livré avec autant d'honnêteté.
Merci.
Merci beaucoup à vous. Bon, merci pour l'invite.
Merci d'être venu.
De nous avoir invité.
Il y en a un qui vient de Tours, l'autre de Vannes, l'autre de Saint-Brieuc. Donc on a quand même. Bon.
On a quand même réussi à se réunir à Blois. Ouais. C'est beau.
Alors l'international, Mélanie. Je te le dis. Bientôt, on a passé les frontières de la Bretagne, mais déjà, c'est
il faut embaucher des traducteurs.
Bien sûr. Mais bien sûr. Merci beaucoup.
Merci Lola.
Merci Mélanie. À bientôt.
À bientôt.
Salut.
Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Vous pourrez retrouver toutes les références qui ont été citées pendant cette émission sur le site de studiozef.fr, rubrique Nos petits pas.
N'hésitez pas à nous partager vos histoires, idées et réflexions sur le compte Instagram de l'émission nospetitspas-podcast ou par mail à nospetitspas.zef@gmail.com. La musique de l'émission est le titre Known du groupe Vendômois Roporose.